Ok. Bonjour.
Salut.
Salut Harrison, comment vas-tu?
Moi ça va. Ça va.
Il faut qu'on trouve un meilleur rapport au début. Il faut qu'on trouve des choses, tu vois, qu'on peut se dire au début de chaque épisode. Parce que pour l'instant, c'est un peu...
Bah moi, j'admire la carte sur ta mur derrière toi. Comme on a dit peut-être le dernier épisode, Cole et moi, on s'est mis à enregistrer à distance.
Tout à fait.
On fait ça via Riverside. Je pense qu'on devrait peut-être citer l'autre sponsor.
C'est pas notre sponsor.
Riverside mais... FM. Donc, on enregistre à distance. Donc, ça veut dire que même si on n'est pas dans le chair et os à côté l'un et l'autre... on fait ça à des centaines de kilomètres.
Ouais. Et tu es en train d'admirer ma belle carte de la région, la zone méditerranéenne.
Ouais. Oui.
Moi, j'habite pas en France, j'habite... Non. Mais c'est une belle carte. Je pense que je vois cette carte un peu partout à Marseille, mais je pense que ça a été fait par une artiste marseillaise, il me semble.
D'accord.
En tout cas, moi, je l'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai mis derrière moi. Donc,
C'est une carte décentrée. Donc c'est,
ouais,
c'est
pardon,
en mode vertical, ça va de tout en haut de la carte, c'est le est de la Méditerranée, et en bas c'est l'ouest.
Bah c'est l'inverse, mais...
Ah ouais?
Ouais.
Ok.
Sauf que je pense qu'avec l'image, en fait l'image est à l'envers, et du coup bref.
Ouais. Bah, c'est un peu ce qu'on voulait faire justement, on voulait décentrer le regard sur les institutions de la démocratie américaine dans cet épisode, c'est ça Cole?
On pourrait le voir comme ça. On veut avoir un regard un peu plus critique de nos chères institutions qui, comme je disais lors de la dernière épisode, nos institutions qui ne sont pas si démocratiques que ça, finalement. Malgré tout ce qu'on nous raconte à l'école, qui d'ailleurs n'est pas... C'est pas ça ressemble un peu à ce qu'on raconte aux étudiants en France aussi. On est des beaux pays... avec des modèles démocratiques, universalistes, républicains, voilà, une mission démocratique qui va au-delà de juste de nos simples frontières. On incarne les idéaux, etc. Mais on a quand même des institutions qui sont très particulières. Et donc, on va parler d'un livre en particulier. Harrison va présenter dans quelques instants le livre qu'on va... Voilà, abordé, qu'on a tous les deux lu pour préparer cet épisode. Mais juste rapidement, pourquoi on a décidé de faire cet épisode? Pour ma part, je pense qu'il n'est pas étonnant pour ceux qui nous écoutent qu'on a tous les deux des convictions un peu à gauche de l'échiquier politique. Souvent, les gens de gauche vont se concentrer sur des structures économiques, sur le capitalisme, sur la lutte des classes, ces conflits structurels pour expliquer
le social.
Voilà, c'est une manière beaucoup plus simple de le dire, merci, sur le social pour expliquer la politique. Je caricature, évidemment, mais voilà, globalement, il y a un peu cette approche qui domine à gauche. Le problème, c'est que si... tu es de gauche aux États-Unis, et si tu as envie de faire des réformes sociales qui transforment le pays, qui apportent plus de démocratie, qui améliorent les conditions des Américains, rapidement, vous allez être confronté, vous allez être bloqué même par nos institutions qui font en sorte que c'est vraiment pas facile de faire des réformes d'ampleur qui transforment le pays. Et donc, chaque personne qui a envie, qui réfléchit à la possibilité de transformer les États-Unis de manière progressiste, il faut réfléchir à ces blocages institutionnels. C'est un peu ça la réflexion derrière. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cet épisode. Peut-être tu pourrais compléter. Mais en tout cas, pour ma part, je pense qu'il est très important de prendre au sérieux la construction de nos institutions et aussi les limites qu'elles nous imposent. Et donc, on a décidé de parler de trois institutions en particulier qui sont particulièrement anti-démocratiques. Et peut-être là, je vais te laisser la parole, Harrison.
Oui, merci pour cette très jolie préface, Cole. Ce sera un peu l'épisode plus théorique. On a fait, maintenant, ça fait quelques épisodes qu'on a fait plutôt des sujets d'actualité sur les procès de Trump, sur la révolte étudiante, etc. On veut aussi avoir des épisodes où c'est un peu, on prend du recul, on lit des livres et on parle de ces livres. Donc, on a lu tous les deux, pour moi, ce qui est un des livres que j'ai lu il y a quelques années pour la première fois, et ça m'a beaucoup marqué. C'est par un théoricien du politique, un political theorist, une sorte de philosophe américain qui s'appelle Robert Dahl, D-A-H-L. Il était longtemps théoricien du politique à Yale, je crois. Et le livre en question, ça s'appelle « How Democratic is the American Constitution ?» C'était un livre qui est sorti au début des années 2000, donc ça date d'une vingtaine d'années maintenant. Et le livre, c'est une adaptation d'une série de conférences qu'il a données à Yale, je crois aussi, à l'époque. Donc « How Democratic is the American Constitution ?» À quel point est-ce que la Constitution américaine était démocratique ? Ou la Constitution américaine était démocratique ?
Ouais.
Et bref, l'argument de Dahl, c'est très simple en fait, je dirais, ce qu'il remarque, je pense qu'il y a un peu le fil conducteur du livre, il y a une contradiction assez importante, c'est le fait que bon, la vie politique américaine est encadrée par des institutions qui datent d'avant ce qu'il appelle la démocratisation de la société américaine. Je pense que c'est un peu un argument pour celles et ceux qui sont au courant, c'est un peu un argument tocquevillien, on peut dire, peut-être on y reviendra, peut-être pas. Mais bon, son argument, c'est qu'il y a une contradiction au fond de la politique américaine au début du 21e siècle entre ces institutions qui, en grande partie, n'ont pas changé tant que ça. Évidemment, il y a eu des réaménagements, des évolutions, certaines institutions qui ont perdu leur forme originelle, mais comme des sortes de limbes fantômes, ou comme des membres fantômes, existent toujours. Mais il y a une contradiction entre ces institutions qu'on a héritées d'une autre époque historique complètement révolue, une période d'esclavage, voire d'une forme d'aristocratie américaine, une aristocratie républicaine, à une période où la société américaine est et se veut démocratique. Et c'est cette contradiction que lui, il identifie comme étant un peu un des grands éléments contextuels de la vie politique américaine dans le 21e siècle. Lui, bon, peut-être aussi juste pour faire un autre petit détour, on va encore aborder dans la première partie de cet épisode le contexte de ce livre dans lequel il est sorti. Donc, comme j'ai dit, au début des années 2000, on a l'élection en 2000 entre George Bush, qui est l'effigie de cette podcast. Vous verrez avec notre photo de profil, George Bush. Et Al Gore. Qu'est-ce qui se passe dans cette élection? On a le candidat Al Gore, démocrate, qui gagne plus de votes des citoyens américains que George Bush. Mais en raison du collège électoral, c'est-à-dire la façon dont dont le système politique américain répartit les électeurs par État pour faire élire un président, c'est le collège électoral qui donne la victoire à George Bush. On peut aussi dire que le Cour suprême, une autre institution qu'on va aborder aujourd'hui, a joué sa rôle dans la victoire de George Bush. Mais bref, tout ça pour dire que au début du 21e siècle, dans l'élection de 2000, il y a eu une élection qui a posé énormément de questions, pardon, sur le fonctionnement des institutions américaines, à quel point est-ce que ces institutions, qui encore une fois sont héritées d'une période très 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 lointaine dans notre histoire, est-ce qu'ils servent toujours une société qui se veut et qui est une société démocratique, c'est-à-dire une société où tous les citoyens se gouvernent, et où un vote égale un vote, et c'est le candidat ou la figure politique ou le parti qui remporte le vote des Américains qui gouverne.
Et c'est marrant, quelque chose qui m'a marqué en lisant ce livre, c'est le ton de Robert Dahl. Et on comprend à quel point un peu controversé, polémique de raconter ce qu'il raconte, c'est-à-dire de critiquer de façon un peu ouverte la Constitution, les institutions américaines. J'ai envie de dire, il s'excuse presque en faisant cette critique, parce qu'on est Bah, peut-être de plus en plus aujourd'hui, mais surtout à l'époque, en 2000, 2001, début du 21e siècle, on n'était pas très habitué à entendre des critiques de ce type. Parce qu'aux États-Unis, bon, comme vous le savez peut-être, on considère que notre constitution est presque sacrée, que ça a été conçu par les pères fondateurs, on les appelle comme ça, les pères fondateurs qui avaient compris parfaitement comment il fallait créer les différentes institutions et que la constitution, ce document, est une sorte de produit de cette génie américaine et il fallait surtout pas la toucher ou pas trop la toucher en tout cas et surtout pas trop la critiquer parce que si tu critiques trop, t'es en quelque sorte en train de remettre en cause la génie des pères fondateurs. Encore une fois, je simplifie les choses, mais je trouve que Dahl, il est très conscient de ça en écrivant ce texte. Il est très modeste dans la façon dont il écrit. Je veux dire qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin, mais il ne le fait pas parce qu'il veut surtout soulever des questions, provoquer des débats, et c'est ce qu'il réussit à faire très bien, à mon avis.
Tout à fait. C'est encore un élément peut-être contextuel, juste pour comparer avec la France, où bon, les Français, vous êtes sur votre cinquième république. Je simplifie encore une fois, mais d'une certaine façon, on peut dire que le système politique américain est encore géré par sa première république, en quelque sorte. C'est une constitution qui a été ratifiée et votée en 1787, qui... Oui, a été beaucoup amendé, qui a évolué depuis 240 ans, 230 ans, mais en grande partie, le cadre reste la même, c'est-à-dire une système politique qui, selon la philosophie des entre guillemets pères fondateurs, est censé faire quoi? C'est un système politique qui est censé canaliser en quelque sorte une idée de souveraineté populaire, mais pas trop, et le canaliser en le diluant avec des formes de représentation qui seraient, qui donneraient beaucoup de pouvoir à des petits États. Donc c'est une constitution d'un gouvernement de l'État fédéral. Donc c'est une sorte de confédération des États avec des populations extrêmement variées. Donc il faut diluer la représentation des grands États par les intérêts et pour la défense des petits États. Donc ça c'est un élément contextuel. Il faut aussi diluer le vote populaire par un vote aristocratique. Il faut des institutions ou des façons de contenir le pur pouvoir majoritaire pour la défense des minorités ou de la minorité. Et quand on dit des minorités ou la minorité, pardon, on ne veut pas dire des minorités ethniques ou je ne sais pas ce que tu veux, mais la minorité, c'est-à-dire les intérêts des classes possédantes de l'époque. Et de l'époque, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord et surtout les classes esclavagistes, surtout, et les intérêts financiers.
Et on voit ça très nettement dans une des trois institutions que vous voulez aborder. Aujourd'hui, donc, on peut commencer par le collège électoral. C'est quoi le collège électoral? Rapidement, pour expliquer, c'est une façon d'élire le président, mais de manière indirecte. Donc, on parle aux États-Unis de cette idée qui n'existe pas ailleurs, du vote populaire, pour la distinguer, le vote populaire, distinguer du vote du collège électoral. Donc ce concept de vote populaire n'existe pas ailleurs. Ailleurs, c'est juste le candidat qui a le plus de voix. En général, c'est celui qui gagne les élections présidentielles. Aux États-Unis, on a le collège électoral pour un peu filtrer la volonté populaire. Donc en gros, au lieu d'avoir une élection en suffrage universel direct, on va élire dans chaque État un certain nombre de grands électeurs. Et puis ensuite, ces grands électeurs vont se réunir entre eux, créant le fameux collège électoral, et puis ils vont voter pour le candidat qui a gagné le plus de voix dans leurs États respectifs. Donc en tout, on a 538 grands électeurs, ce qui fait que le premier candidat à obtenir 270 voix gagne l'élection présidentielle. Et puis autre précision importante, avec quelques petites exceptions, les grands électeurs sont obligés de voter tous ensemble pour le candidat qui a obtenu le plus de voix dans leur État, quelle que soit la marge de victoire du candidat. C'est-à-dire que si Biden gagne la Pennsylvanie, par exemple, avec une marge de 50 voix ou de 50 000 voix, De toute façon, il gagne l'ensemble de ses 20 grands électeurs. Et donc, là, vous voyez très vite que ce système crée des problèmes. Tout d'abord, ce système va encourager les candidats à se concentrer sur quelques États, les fameux swing states, les États pivots, les États où les marges sont les plus serrées. Ça, on le voit maintenant depuis plusieurs élections. Il y a certains États qui sont tout simplement ignorés au profit d'autres. On va faire campagne en Pennsylvanie, à Wisconsin, en Géorgie, etc. Mais on ne va pas du tout faire campagne dans le Massachusetts, dans le Dakota du Nord, etc. Donc ça, ce n'est pas très démocratique. Et puis, bon, le pire, peut-être encore pire, c'est ce que tu venais dire au début, c'est que on a la possibilité d'avoir des présidents qui sont élus sans avoir obtenu une majorité de voix. C'est ce qu'on a vu en 2000 avec l'élection de George W. Bush. On l'a vu encore une fois en 2016 avec l'élection de Donald Trump. Il ne faut pas oublier que Hillary Clinton, le candidat démocrate, avait 3 millions de voix de plus que Trump, mais c'est Trump qui avait plus de grands électeurs. Et je pense que sur les 6 dernières élections, il n'y a qu'une seule élection où le candidat républicain, par exemple, avait plus de voix. Or, bon, comme je viens de dire, en 2000 et en 2016, les candidats républicains ont quand même emporté les élections.
Oui, donc ils ont eu 3 mandats présidentiels, alors que c'est qu'une seule fois où ils ont eu la majorité des votes américains.
Ouais.
Ça donne l'idée de l'absurdité absolue et juste criante de cette système de faire élire un président.
Et ce que Dahl montre aussi dans le texte, c'est que le collège électoral a été créé à un moment où en fait, les pères fondateurs, entre guillemets, ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient, ils n'avaient pas trop de modèles. Ils savaient que, bon, il fallait un peu filtrer, en quelque sorte, la volonté populaire. Cette institution est très bizarre finalement. Il n'y a pas vraiment de.
L'autre proposition, c'était il fallait faire élire le chef exécutif, donc le figure qui allait devenir le président moderne. Il fallait le faire élire par un vote du Congrès à Washington, ou pardon, pas à Washington à l'époque, mais au capital fédéral. Donc ce qui aurait fait en quelque sorte que le président, ou ce qui est devenu le président américain, aurait été en quelque sorte une sorte de premier ministre. Élu par un parlement comme on le voit dans les autres démocraties européennes. Ce qui me fait un peu penser à un autre argument assez intéressant. Donc bon, comme tu disais tout à l'heure, Cole, les Américains, on a tendance à tellement... on considère la Constitution comme une sorte d'objet tombé du ciel, sinon de la génie des figures du fin du XVIIIe siècle. Alors que si on fait vraiment la comparaison avec l'énorme majorité des démocraties occidentales, libérales, entre guillemets, il y a presque aucun qui a suivi le modèle américain. La plupart des pays, ils ont une forme de système parlementaire où c'est les représentants élus par le peuple qui élisent le gouvernement. C'est ce système d'accorder un exécutif avec un tel pouvoir. Bon, peut-être on peut le comparer un peu avec le système présidentiel ou mixte français, mais... dans la grande majorité, les démocraties parlementaires, comme ils se sont développés avec ce que Dahl il appelle la démocratisation du 19e siècle, ils ont suivi un tout autre modèle qui porte des fruits qui sont beaucoup différents, avec des résultats qu'on pourrait dire beaucoup plus démocratiques déjà.
Et pour moi, c'est un des meilleurs arguments de Dahl, c'est quand il dit si ce système est tellement incroyable, pourquoi d'autres pays ne l'ont pas adopté aussi?
Oui.
Pourquoi les États-Unis sont le seul pays à avoir ce système complètement farfelu de délire de président? En fait, il n'y a pas d'autres pays qui l'ont adapté, et d'ailleurs pour de très bonnes raisons.
Oui. Il faut noter qu'il y a eu des évolutions. Donc, comme on a dit, la première idée du collège électoral, ce serait d'avoir été une sorte de chambre de notables choisie par les législateurs dans chaque État au niveau local, qui auraient choisi des sortes de figures prominentes, des sages de chaque État, des nobles de chaque État, pour élire cette figure exécutive. Mais le long, un peu du première moitié du XXe siècle, on peut dire, c'est là où tu as cette démocratisation, où tu vois d'abord le suffrage universel masculin blanc. Donc c'est le vote, le droit de vote est accordé à tous les hommes blancs, donc le long du première moitié du XIXe siècle. Vous avez l'évolution assez générale où les votes du collège électoral vont être accordés au candidat qui a gagné le plus d'États populaires dans chaque État.
Plus de voix populaire, ouais, plus
oui,
de voix.
Plus de voix populaire dans chaque État. Donc c'est une évolution, mais on voit que, comme j'ai dit au début, une sorte de membre fantôme politique. La forme du collège électoral a changé, mais on a gardé en quelque sorte quelques-uns des effets très néfastes qu'on voit assez souvent, sept siècles. La façon dont ça tord la répartition des votes et que ça peut faire des résultats où un candidat serait le président qui n'aurait pas eu le plus de votes de citoyens. Peut-être si on peut passer aux propositions de réforme. Donc, peut-être un des éléments juste contextuels que Dahl nous rappelle, c'est que dans le fond, la Constitution américaine, c'est quasiment irréformable. Il faut une sorte de super majorité des deux chambres pour faire passer un amendement qui va changer la structure de l'État fédéral. Il faut ensuite, ou par d'autres biais, il faut aussi trois quarts des États pour faire approuver un amendement, ce qui veut dire que tous les petits États qui profitent de ce système vont sûrement pas l'accepter. Mais il y a quand même quelques pistes qui sont un peu ouvertes, qui à chaque élection sont... Il y a une sorte de chronique dans le New York Times qui va sortir, qui va encore une fois nous rappeler qu'il y a des possibilités pour changer des choses au niveau du collège électoral. Et une des propositions, c'est quoi?
C'est le National Popular Vote Interstate Compact, accord interétat du vote national populaire.
Voilà.
Donc
voilà.
Ce serait un accord entre les États qui seraient d'accord pour... attribuer leurs grands électeurs aux candidats à la présidentielle qui arrivent en tête en termes de suffrage populaire au niveau fédéral. Donc c'est une façon de dire que voilà, les États qui seraient d'accord avec cet accord, en gros, donneraient leurs grands électeurs aux candidats qui a le plus de voix. Donc c'est une façon de contourner un peu le collège électoral tel qu'il est conçu aujourd'hui.
Et ça entrerait en vigueur dès qu'il y a assez d'États pour faire une majorité au collège électoral. Donc, on en est loin. Je ne le vois pas venir forcément, mais à voir.
Et d'ailleurs, ce sont quasiment que, si je ne me trompe pas, quasiment que des États démocrates qui ont signé, qui sont d'accord pour l'instant. Oui, je te confirme ça, parce que je suis en train de relire la liste d'États signataires. En effet, ce sont que des États démocrates. Moins de la moitié des États, donc on en est loin. Parce que, qu'est-ce que ça nous dit aussi, le fait que ce ne sont que des États démocrates? Ça montre qu'aujourd'hui, ce sont les démocrates qui sont plus pénalisés, entre guillemets, par le collège électoral actuel. Sauf que, tu sais, moi je pensais, qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, je ne sais pas si... c'est Donald Trump finalement en novembre qui a plus de voix que Joe Biden, plus de votes populaires entre guillemets, donc Trump qui arrive en tête, mais c'est Biden qui devient président parce qu'il a eu plus de grands électeurs. Si les républicains étaient pénalisés par le collège électoral, est-ce que éventuellement ça pourrait les encourager à réfléchir à changer le système? Pas parce qu'ils ont de la bonne volonté, que ce sont des alliés, ou qu'ils ont envie de reconstruire la démocratie américaine, mais parce qu'ils se sont des opportunistes horribles qui veulent gagner à tout prix. Je sais pas, est-ce que ce serait pas un scénario possible?
Pour poursuivre un peu la galerie de portraits, parce qu'en 2000, pour revenir au contexte d'Al, 2000, donc, on a cette collège électoral qui donne la victoire à George Bush, qui a eu quand même moins de voix, moins de, entre guillemets, votes populaires que Al Gore. Alors qu'il y a eu aussi une intervention du Cour suprême, qu'on devrait aborder maintenant. Le Cour suprême qui, dans les semaines suivantes l'élection en novembre 2000, décide d'arrêter un recount des votes dans l'État de Floride où il y a eu des véritables interrogations sur le scrutin, sur la fiabilité de certains bureaux de vote. Et le marge de victoire était, on parlait des centaines de votes. Et c'est le Cour suprême qui intervient pour arrêter le recount et donner la victoire au candidat qui était alors en tête dans l'État de Floride, George Bush. Et c'est cette décision, intervention du Cour suprême, qui serait une version un peu moindre pour la gauche aux États-Unis, une forme d'élection volée par la droite aux États-Unis. Donc le Cour suprême, une autre institution verrouillée, horrible aux États-Unis, qui empêche et bloque beaucoup d'avancées sociales progressistes. Le Cour suprême, parlons-en.
Donc, c'est une institution qui a été créée avec la Constitution, hein. Sauf que le rôle que la Cour joue aujourd'hui n'est pas inscrit en soi dans la Constitution. La Cour s'est en quelque sorte autoproclamée, c'est donner le pouvoir de faire bloquer des lois elles-mêmes. Et donc, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est hyper chiant, mais il y a une décision très importante, Marbury versus Madison, au début de la jeune République américaine, où il y a la Cour qui intervient en gros pour bloquer quelque chose qui a été voté au Congrès en disant que elle a ce pouvoir de judicial review. Donc c'est un concept très très important, qu'elle a ce pouvoir de réviser, de revoir les décisions qui sont prises par les députés américains et par la législature, par les élus américains. Donc c'est un pouvoir que la Cour s'est donné, s'est auto-accordée, s'est accordée elle-même. Et depuis, voilà, la Cour suprême joue un rôle absolument immense dans la politique américaine, beaucoup plus que dans d'autres pays.
On pourrait citer, la liste est interminable des décisions qui ont complètement basculé ou qui ont complètement gravé dans le marbre certaines des institutions les plus néfastes aux États-Unis. Alors, peut-être juste pour faire bref, c'est une décision de la Cour suprême, par exemple, qui valide la ségrégation à la fin du 19e siècle. C'est aussi la Cour suprême qui arrête la ségrégation ou qui formellement contredit l'institution de la ségrégation dans le Sud. C'est la Cour suprême qui crée un droit fédéral à l'avortement, tout comme c'était la Cour suprême il y a 2 ans qui a annulé le droit fédéral à l'avortement, qui a retourné la question au gouvernement, aux États locaux.
Et c'est la Cour suprême, juste pour ajouter un peu, pour compléter la liste, qui a décidé, peut-être la décision, la pire décision, il y en a beaucoup, mais peut-être la pire, c'était la décision de Dred Scott, donc en 1857, qu'en gros la Cour décide que les Afro-Américains ne sont pas des citoyens américains, tout simplement.
Ils n'étaient jamais censés devenir citoyens,
ils ne sont pas des citoyens.
Oui.
Aujourd'hui, on reconnaît que c'était la pire décision. Mais en tout cas, voilà, c'est la Cour qui a fait ça. Et puis d'ailleurs, la Cour a aussi fait des choses dans le sens du progrès. Hein. Le droit à l'avortement a été... il y a eu de la décision de Roe versus Wade au début des années 70. Et puis bon, il y a quelques années aussi... voire une dizaine d'années, la décision pour légaliser le mariage pour tous aux États-Unis, ce n'est pas le fruit d'un combat politique qui aurait convaincu tous les députés à inscrire ce droit dans la Constitution. Non, c'était la Cour suprême qui a décidé que finalement, selon la Constitution, il n'y avait rien qui interdisait les couples du même sexe de pouvoir se marier.
Et que ça relevait du droit à la vie privée. C'est ça, le droit constitutionnel à la vie privée. C'est ça, l'égalité devant la loi.
Donc la Cour donne des choses, mais la Cour retire beaucoup aussi.
C'est le pater familias de la vie politique américaine.
On peut dire ça comme ça. On peut dire aussi que ce sont des espèces d'ayatollahs qui, dans des robes, qui gèrent oui. un peu, qui encadrent la limite du possible.
Les ayatollahs, c'est notre petit clin d'œil au printemps républicain.
Bah oui, ouais. Parce que bon, il y a encore un autre truc qu'on n'a pas dit, c'est que les juges. Au niveau fédéral aux États-Unis, dont la Cour suprême, les juges qui sont nommés restent à vie. Ce qui aussi est complètement... quand tu expliques ça, des gens sont parfois choqués en France quand tu leur dis qu'ils sont là à vie. Et donc ça aussi, ça crée des scénarios complètement absurdes où il y a ce jeu qui consiste à dire est-ce qu'il ne faudrait pas mettre pression sur tel ou tel juge pour se retirer, pour qu'ensuite on puisse nommer un autre juge avant que l'autre juge meure. Enfin, ce sont des calculs politiques qui sont complètement étranges.
Avant novembre, une des questions, c'est est-ce que Sonia Sotomayor va céder sa place pour faire en sorte que... les démocrates qui sont au pouvoir au Sénat, donc c'est le Sénat dans le Congrès qui approuve les nominations du président à la Cour suprême. Est-ce que Sonia Sotomayor devrait se retirer pour que les démocrates puissent nommer un nouvel juge? Donc il faut aussi noter qu'aujourd'hui, le Parti républicain a une super majorité de 6 juges qui ont été nommés par les présidents républicains dans la Cour suprême. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant une génération, voire plus, la plus haute instance du système judiciaire américain est et sera dominée par les juges conservatrices. Donc il y a évidemment des possibilités ou des propositions et des véritables chemins possibles pour casser cette institution qui fige ou qui a le pouvoir ou la capacité de figer la démocratie américaine. Mais dans l'état actuel, les conservateurs sont partis pour rester au Cour suprême. Là, c'est pas que juste une question des mandats. On parle des décennies à venir de domination conservatrice sur la Cour suprême.
Du point de vue de la gauche progressiste américaine, il y a toujours un peu cette menace qui est toujours présente, qui est toujours là. Enfin, je veux dire, dès que vous proposez des lois de transformation sociale, il y a un peu toujours cette possibilité, et surtout aujourd'hui, cette possibilité que la Cour suprême va interdire voilà, telle ou telle mesure. Et donc, c'est une façon de... je vais m'arrêter là, mais en tout cas, je pense que du point de vue de la gauche progressiste aux États-Unis...
Tout à fait. Que ce soit la porte d'armes, ce soit le droit des syndicats... il y a des énormes freins dans la jurisprudence américaine à la démocratisation de ces pratiques ou de ces sphères de la société, de ces questions. Que ce soit sur une loi qui interdirait le port des semi-automatiques, que ce soit sur une loi qui faciliterait la formation la création des syndicats. On a vu depuis des décennies que la Cour suprême a une vision très, très, très réductrice sur ces questions. Récemment aussi, je pense qu'on devrait le mentionner parce que ça a été tellement conséquent depuis une quinzaine d'années. C'est la fameuse décision, je pense que c'était 2010, sur les financements des campagnes. Donc c'était Citizens United versus the Federal Electoral Commission qui a levé tous les boucliers sur le financement des associations de pression politique et sur le financement de ces associations qui sont devenues les véritables cœurs des campagnes électorales. Donc on peut créer des sortes des associations coquilles pour créer des publicités, pour mener des campagnes électorales. Donc c'est ça, on a vu depuis une augmentation, on parle des centaines, genre 100-200% d'augmentation dans la taille des financements des campagnes et de l'argent qui est dépensé chaque année électorale. C'était une décision du Roberts Court, donc John Roberts, c'est l'actuel président de la Cour suprême, qui a donné c'était le cadeau rêvé pour la droite. On peut aussi évoquer les autres décisions très conséquentes. C'est la Cour suprême de Roberts encore, dans les années 2010, qui a en grande partie vidé les protections au vote hérité des années 60 et du mouvement des droits civiques, qui a renforcé le département de la justice pour protéger les minorités ethniques, notamment dans le Sud et dans les anciens États ségrégationnistes. Et c'est la Cour suprême Roberts qui a invalidé une grande partie de ces protections et de ces outils.
Et cette décision que tu as évoquée sur la décision de Citizens United sur les dépenses de campagne, finalement, la décision a été prise au nom de la liberté d'expression. C'était parce que au nom du premier amendement de la Constitution, qui était peut-être le même pas, un des amendements les plus importants. Et donc, selon la logique de la Cour, des tentatives de limiter les dépenses de campagne seraient une façon de limiter les droits du premier amendement, voilà, ou qui protège le droit qui protège la liberté d'expression. Donc, en gros, voilà, l'argent qu'on dépense est une forme de d'expression politique. Donc ça, c'est la vision un peu tordue de la Cour. Mais ce que montre aussi la décision, c'est à quel point les décisions peuvent varier en fonction des parcours politiques, des idées politiques des juges, même si il y a toujours cette fiction selon laquelle les juges seraient que des juges, qu'ils n'ont pas d'avis politique et qu'ils sont que des juges. Quoi. Voilà, ils ne font que interpréter la loi. Ils n'essaient pas du tout d'imposer leurs propres idées, leurs propres points de vue. Mais ce qu'on voit très bien, c'est que la Cour bascule d'une génération à l'autre, même si aujourd'hui, bon, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on est sous une Cour qui est quand même dominée par la droite. Et d'ailleurs, je pense qu'on l'a évoqué dans le dernier épisode, il me semble, mais on a parlé d'un des juges actuels, Alito, très conservateur, qui... lui avait des drapeaux pro-Trump, enfin des drapeaux symboles d'extrême droite américaine chez lui, dans sa maison en Virginie, et puis même à sa maison de vacances dans le New Jersey. Et puis bon, on pourrait parler aussi de Clarence Thomas, un autre juge très très conservateur, dont la femme aussi était très très engagée dans le combat de comment tu expliquerais ça, le combat pour renverser Stop the Steal, le combat pour donner l'élection à Trump en 2020. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça, mais c'est une autre fiction, et moi je dis bien fiction parce que je constate que c'est une fiction que ces juges n'ont pas d'avis politique eux-mêmes, qu'ils ne font que interpréter la loi. Évidemment, c'est faux.
Alors comment faire face? Donc, avant de passer au Sénat, notre dernière...
Que faire, comme dirait Lanine.
Ouais, que faire. Donc, une chose, il y a 9 juges. Ce n'est pas écrit dans la Constitution.
Non.
Ce n'est qu'un acte du Congrès qui spécifie qu'il y aurait 9 juges dans la Cour suprême. C'est-à-dire que, au moins en théorie... Ça peut changer très facilement, depuis des décennies. C'est ça un peu l'avenue pour celles et ceux qui identifient la Cour suprême comme étant vraiment un frein terrible à la démocratie aux États-Unis. Il faut juste nommer plus de juges. Donc, depuis que Biden est de retour, ça c'est un des arguments de la Cour suprême. On appelle ça le court packing. Donc, je ne sais pas comment le traduire en français, mais bon, la gauche du Parti démocrate, Sanders, The Squad, etc., on réclame que Biden, bon, on n'aime pas ses décisions rendues par le Roberts Court, par la Cour de Roberts. Il faut faire quoi? Il faut juste nommer 4, 5, 6, voire plus de juges. Et comme ça, la gauche aura la majorité et on pourra légiférer comme on veut. Il se trouve que l'aile conservatrice du Parti démocrate ne veut pas entendre parler. Ça, ça fait partie de ce que Dahl, il appelle la constitution non écrite en quelque sorte. Il ne faut pas trop se heurter aux mœurs qui sous-entend ou qui soutient, qui fait un peu de l'infrastructure du système politique américain. Là, petite parenthèse, je pense qu'il y a un des éléments qu'on a un peu perdu Dahl là, mais Dahl, si t'as évoqué un peu son ton, il n'est pas très... C'est pas un radical du tout. Et aussi, il est un peu pessimiste et il identifie cette contradiction. Mais il a aussi un certain optimisme sur la possibilité d'une évolution sage ou saine malgré cette contradiction. Et qu'est-ce qu'il identifie comme la raison pour sa confiance ? Il dit, heureusement aux États-Unis, on a ce qu'il appelait une culture démocratique, une culture pluraliste qui fait en sorte que le républicain et les démocrates, ils se comprennent et travaillent un peu ensemble. Bon, là, encore une fois, on parle d'une situation, il y a 20 ans, moi, je ne suis pas d'accord sur Dahl, sur cette époque-là, mais bon, ce n'est pas un radical. Mais je pense aujourd'hui, celles et ceux qui croient toujours qu'il y a cette, entre guillemets, culture démocratique entre les républicains et les démocrates, je sais pas, vous êtes en train de... Vous êtes en quel monde, en fait? C'est complètement absurde. Il faut commencer à enlever les gants, en quelque sorte, comme on dirait.
Même le fait de faire de menacer de nommer plus de juges, peut-être pourrait avoir un impact sur les décisions de la Cour. Il y a un exemple classique qui est souvent cité par les gens qui pensent qu'il faut nommer plus de juges, c'est l'exemple donné par Franklin Roosevelt dans les années 30. Pendant le New Deal, il se trouvait à ce moment-là, la Cour suprême n'était pas très fan, pour aller vite, du New Deal de Roosevelt, parce qu'il considérait qu'il y avait trop de pouvoirs fédéraux et que, bon, ça allait trop loin. Et donc, la Cour a invalidé un certain nombre de lois, imposées, approuvées par les démocrates. Et donc, Roosevelt, à un moment, a dit « Ok, très bien, je vais tout simplement changer la loi et je vais nommer plus de juges ». Bon, finalement, la tentative a échoué au Congrès, mais on a vu que par conséquent, la Cour a été un peu moins, était un peu plus favorable au New Deal, en tout cas moins défavorable à certaines lois, et donc n'a pas complètement invalidé le New Deal après ça. Est-ce que c'est un exemple de... Bon, à ce moment-là, tout le monde critiquait le plan de Roosevelt, c'était antidémocratique, c'était pas possible, mais bon... Quand même, d'un point de vue politique, ça a porté ses fruits. Et donc, tout ça, ça me fait réfléchir. Aujourd'hui, est-ce que même le fait de menacer de changer la loi, est-ce que ça pourrait pas avoir un impact? Déjà, on voit à quel point la crédibilité, la légitimité de la Cour est remise en question. Est-ce que ce serait pas tout simplement un autre levier de pression? Désolé, hein, peut-être ça pourrait choquer certaines personnes que je parle comme ça d'une institution vraiment au cœur de la démocratie américaine. Mais je pense qu'on en est là, en fait, qu'il faut voir la Cour comme un pouvoir comme un autre, et qu'il faut réfléchir de manière stratégique et politique à comment on l'a transformé.
Que si on regarde vraiment, je sais pas, la stratégie du mouvement conservateur américain depuis au moins les années 80-70, le système judiciaire et la Cour suprême notamment, c'est vraiment au cœur de la stratégie. On devrait évoquer peut-être les institutions, les organisations comme the Federalist Society, c'est un sorte de groupe de pression, groupe de réflexion juridique, qui est vraiment derrière la stratégie juridique du mouvement conservateur, c'est-à-dire il faut que la droite investisse ces institutions, parce que ces institutions, c'est vraiment le cadeau, un des grands cadeaux dans le système politique américain pour la minorité politique, pour un mouvement conservateur un peu minoritaire. Donc la droite sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait que ces institutions, c'est une manière de faire passer des propositions et des politiques qui sont très, 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 très minoritaires, qui n'ont pas le soutien de la population. Et qu'est-ce qu'on voit? Il se sert de ces institutions pour faire exactement ça. Donc nous, on voit ce qu'il fait et encore une fois, il faut revenir ou il faut développer une stratégie de confrontation avec ces institutions. C'est ça l'argument à gauche dans le Parti démocrate.
Je pense que tu fais référence à cette idée qu'on entend de plus en plus aux États-Unis, ce concept de minority rule, de gouvernance par minorité, je ne sais pas comment on appellerait ça. ce qui est au cœur de la stratégie républicaine. C'est-à-dire que même si on perd les élections présidentielles, même si on a moins de voix aux élections présidentielles, même si, si on en a même voix, on peut quand même gagner la présidence avec le collège électoral, on peut quand même imposer nos idées avec la Cour suprême. Donc voilà, ça c'est un des scénarios possibles. Et peut-être pour terminer, j'essaie de faire une transition à notre, pour parler de notre dernière institution pour aujourd'hui, c'est le Sénat.
C'est mon préféré, le Sénat.
C'est ton préféré, pourquoi ?
C'est parfaitement horrible. C'est la pièce de la résistance, la Constitution américaine peut-être. C'est le chef-d'œuvre.
Ouais, c'est vrai que si
pouvoir minoritaire sur le système politique américain.
Ouais, que si pour le coup, si vous avez peur de des masses, de la volonté populaire qui pourrait déborder et terminer en révolution, le Sénat c'est vraiment une institution parfaite si vous avez envie de si vous avez très peur de des excès de la volonté populaire, le Sénat c'est vraiment une institution parfaite pour éventuellement bloquer les excès de la Chambre des représentants. Un peu comme en France, il faut le reconnaître, sauf que, comme on va le voir, ou comme vous le savez déjà, le Sénat aux États-Unis a plus de pouvoir que le Sénat français. Le Sénat, on l'a vu vraiment au long de la présidence Biden, enfin en tout cas ces trois premières années, on a vu comment le Sénat a... On a vu sous Obama aussi, on a vu comment le Sénat a pu... bloquer des tentatives de réforme importantes.
Depuis le 19e siècle, le Sénat, c'est le cœur de la réaction politique américaine. Avant la guerre civile, le Sénat, c'est quoi ? C'est l'institution esclavagiste par excellence. À l'époque progressiste, le Sénat, c'est quoi ? C'était, comme on disait à l'époque, c'est le club des millionnaires. C'est le frein à toute tentative de construire des institutions, comme un État social. Il y a eu des réformes au Sénat aussi. C'est au début du XXe siècle qu'on passe à ce qu'on appelle l'élection directe du Sénat. Peut-être juste pour entre parenthèses, dire ce que c'est exactement le Sénat. Le Sénat, ouais. C'est 100 sénateurs. Voilà. La Chambre de représentants, c'est proportionnel à la population de chaque État. Moi, je viens de Massachusetts, on a une dizaine de représentants à la Chambre. En revanche, on a deux sénateurs. Toi, Cole, tu viens du Connecticut. Je ne sais pas la population du Connecticut, mais vous avez deux sénateurs aussi.
On a cinq députés, deux sénateurs. Ouais.
Deux sénateurs. Chaque État, peu importe la population, a deux sénateurs. Donc, l'État de Wyoming, l'État avec le moins de population aux États-Unis a deux sénateurs, tout comme la Californie avec ses dizaines de millions de citoyens. Le Sénat, c'est l'institution qui est censée représenter les États dans le système politique américain. Donc, encore une fois, le système fédéral aux États-Unis qui fédère divers États. Et comment est-ce que dans la Constitution de 1787, le Sénat ou les sénateurs seraient choisis un peu comme le collège électoral, par les législateurs de chaque État, donc par la Chambre ou par le gouvernement de chaque État.
Mais là, on a un problème, peut-être c'est évident, mais je voulais juste, peut-être je risque de me répéter, on a un énorme problème démocratique là, puisque le Sénat a autant de pouvoir que la Chambre, enfin, bon, pas autant de pouvoir, parce que c'est un peu différent, mais... Le Sénat a plus ou moins les mêmes... pour faire approuver des lois, vous avez besoin d'à la fois du soutien de la Chambre des représentants et du Sénat. Et si les deux ne sont pas d'accord, tant pis, vous ne pouvez pas faire approuver la loi que vous avez envie de faire approuver. Et là, on a un énorme problème démocratique, puisqu'on a des États où, des États où il y a 600 000 habitants ont les mêmes représentants, le même poids, finalement, dans le jeu politique que des États où il y a 40 millions d'habitants. Donc c'est une institution qui favorise, qui surreprésente les intérêts de la population rurale qui elle est plus conservatrice en général au détriment des grandes villes. Et encore une fois, juste pour être clair, hein, j'ai rien contre les gens qui habitent à la campagne, j'ai rien contre la ruralité en tant que telle. Juste, je trouve que c'est injuste en fait c'est injuste pour les résidents ailleurs que ces états ruraux aient plus de poids politique. C'est un énorme problème politique.
Je pense que le chiffre que je vois assez souvent, c'est que 40% de la population américaine est représentée par 80 des 100 sénateurs. Donc ça donne une idée de juste l'ordre de grandeur de la disproportionnalité qui est juste dans l'ADN de cette institution.
Et puis en plus... On a vu des règles aussi, des règles qui ne sont pas inscrites dans la Constitution, qui limitent même des tentatives qui encadrent un peu le fonctionnement du Sénat. Donc normalement, bon, pour faire approuver des lois, vous avez besoin d'une majorité de voix au Sénat. Bon, en théorie, bon, jusqu'ici tout va bien. Sauf que on a cette tradition d'utiliser le filibuster. C'est une espèce de manœuvre parlementaire pour faire en sorte que finalement vous avez besoin de 60 voix ou plus de voix, plus de la majorité pour faire approuver des lois. Ça c'est la version très courte, mais c'est un exemple de comment le Sénat même au sein du Sénat, c'est pas une institution majoritaire. Finalement, avec quelques exceptions, pour faire approuver des lois, vous avez besoin de 60 voix au Sénat, même pas 50. Ce qui fait que, bon, on l'a vu avec l'administration de Biden ces dernières années, même avec une petite marge, je pense qu'ils ont 50 sénateurs, au début ils avaient 50 sénateurs, plus Kamala Harris, la vice-présidente, donc 51 voix. Ils ne pouvaient même pas faire approuver les lois qu'ils voulaient imposer, parce qu'il y a cette fameuse institution du filibuster, cette façon d'augmenter la barre, d'obliger des sénateurs d'avoir 60 voix pour faire approuver des lois.
Bah en vrai, le filibuster, c'est intéressant parce que c'est un peu l'institutionnalisation de ce qui a été, ou l'idée de la culture du Sénat serait, au 19e siècle, l'idée s'est développée que le Sénat devrait fonctionner par consensus, entre guillemets. Genre l'idée ou la fantaisie ou l'idéal, c'était qu'aucune loi ne passerait par le Sénat qui ne recevait pas le feu vert de toutes les parties prenantes. Et qu'est-ce que ça voulait dire avant la guerre civile? Ça voulait dire aucun projet de loi ne devrait être approuvé qui heurtait au lobby esclavagiste. Donc un peu la tête pensante, la grande figure dans la culture du Sénat, et qui est un peu John McConnell. C'est quoi McConnell? Non, Mitch McConnell. McConnell. Non, pardon. Mitch McConnell aujourd'hui, c'est l'héritier, un peu, en quelque sorte, de John C. Calhoun au début du 19e siècle, qui a créé cette idée que chaque État devrait avoir le droit d'invalider toutes les lois fédérales. Bon, on ne va pas rentrer entièrement dans les détails, mais cette idée que le Sénat fonctionne par consensus, c'est ce droit de continuer à débattre sur une proposition de loi avant qu'il y ait consensus sur son contenu. Le filibuster aujourd'hui, qui dans sa forme actuelle date du début du XXe siècle, c'était un peu l'institutionnalisation de cette idée de consensus, c'est-à-dire que toutes les parties prenantes devraient être d'accord. Et au XXe siècle, qu'est-ce qu'on a vu de ce dispositif? C'est le filibuster qui a été très souvent utilisé par le lobby ségrégationniste notamment pour tuer dans l'œuf tous les grands projets de loi qui essayaient d'attaquer la ségrégation. Donc jusqu'aux années 50, les grands maîtres du filibuster, jusqu'à l'année 60, pardon, les grands maîtres du filibuster, c'était les sénateurs des États du Sud qui, dans certains cas, parleraient pendant peut-être une jour en entier avant de passer le relais à quelqu'un d'autre, juste pour faire en sorte que le côté en face juste s'enlacerait et on laisserait tomber tel ou tel projet pour les droits civiques. Donc, cette idée du consensus, ou de l'accord de toutes les parties prenantes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment c'est le rêve de cette minorité qui veut être d'accord avec tout ce qui passe par le Congrès américain.
Et puis, la question se pose, qu'est-ce qu'on peut faire pour éventuellement changer la donne, réformer le Sénat? Pour revenir à notre ami Dahl, et d'ailleurs je pense qu'il a complètement raison, ce serait très très compliqué, voire inimaginable, de faire un amendement à la Constitution pour réduire ou changer, pour réduire le pouvoir du Sénat ou pour changer le calcul de sénateurs par État, puisqu'il faudrait que au moins deux tiers de la Chambre des représentants et deux tiers du Sénat votent pour l'amendement. Mais bon, si vous êtes sénateur d'un État rural, pourquoi vous voterez pour la disparition de votre poids politique? Donc c'est presque imaginable. L'autre option qui est un peu plus réaliste, en parlant du filibuster, en parlant de cette obstruction parlementaire, un des pistes serait tout simplement de mettre fin au filibuster, d'enlever le filibuster, de changer les règles du Sénat pour faire en sorte que les sénateurs ne puissent plus utiliser le filibuster pour bloquer le débat.
Et c'est des règles qu'ils ont votées à chaque début de chaque congrès.
Ouais.
Donc c'est tous les deux ans que ça, cette question revient.
Et je pense qu'on a évoqué un peu dans notre premier épisode tout le débat côté démocrate au début de la présidence de Biden. Est-ce qu'il fallait mettre fin au filibuster ou pas? Il se trouve que si Donald Trump est élu en novembre, ce qui est possible, voire probable, je ne sais pas, les démocrates, si les républicains en ont une majorité au Sénat, vous pouvez être sûr du fait que les démocrates, ils vont utiliser le filibuster à fond, ils vont utiliser l'obstruction parlementaire à fond, et c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui, certains démocrates sont assez méfiants de cette proposition, de cette idée de mettre fin au filibuster, parce que c'est une arme qu'on peut utiliser quand on est en minorité. Donc, en tout cas, ce n'est pas une question qui se pose vraiment aujourd'hui, dans l'état actuel des choses. Mais je parie que si les républicains reprennent le contrôle du Sénat, ce qui n'est pas improbable, les démocrates vont être obligés, ils vont beaucoup, beaucoup utiliser le filibuster, et que peut-être même il y aura des appels du côté républicain pour mettre fin à cette arme. Quand on voit le niveau de
cette arme extra-constitutionnelle, ouais. Encore une fois, cette arme extra-constitutionnelle qui fait partie aussi de la constitution non écrite que Dahl identifie. Peut-être on peut finir sur cette note un peu tragique.
Est-ce qu'on peut pas dire, je pense à, il y a le livre très connu d'un des écrivains, un écrivain que j'admire beaucoup, Mike Davis, qui s'appelle Prisoners of the American Dream, donc prisonniers du rêve américain. Lui, pour le coup, dans ce livre, il parle plus du social, de comment toute la propagande et l'idéologie américaine de la réussite a pu empêcher, empêcher la création de vrais partis politiques ouvriers et une conscience de classe plus importante. Donc là, il part du social. Est-ce qu'on peut pas dire aussi qu'on est un peu prisonnier de notre constitution, de nos institutions, qui nous empêchent de réaliser pleinement nos rêves, nos ambitions de transformation sociale?
Tout à fait. Et ça, c'est un des points que j'admire en France. On est sur la 5e République, mais vivement la 6e République.
Allez, écoute, c'est vrai, on en discute.
Du réforme constitutionnelle. Même la droite a diverses possibilités de réforme constitutionnelle qui seraient peut-être aussi très néfastes. Mais la réforme constitutionnelle
ce
n'est pas un tabou.
Ouais, on a besoin de plus d'influence française dans la politique américaine sur ce point-là. On est d'accord.
Sur cette notion un peu francophile. Parce qu'on s'arrête pour...
On est un peu francophile, non? On peut le dire.
Ouais, allez. On peut le dire.
Écoute, à la prochaine. Merci d'avoir écouté jusqu'à... si vous êtes toujours en train d'écouter. Et puis, à la prochaine.
Oui, à la prochaine.